Est-ce qu'il serait possible de revenir sur l'idée de conflit de loyauté pour les enfants, de le détailler, s'il vous plaît ?
Oui, alors, moi je suis pas spécialiste du conflit de loyauté, parce que ça relève plutôt de la psychologie, mais évidemment, les sciences humaines sont pas débitables en tranches, et elles peuvent se conforter les unes les autres, puisqu'elles parlent en fait des mêmes réalités. Si vous voulez... Alors, dans un autre type d'exercice, avec Elisabeth Bauty, on est en train de dire que pour apprendre à l'école, il y a des registres que les élèves doivent aligner un peu comme les planètes. Hein. Il y a un registre cognitif. Voilà, il y a une manière d'apprendre à l'école avec des procédures auxquelles j'ai fait un peu allusion tout à l'heure. Lorsque Stéphane Bonnery travaille sur l'association Zebrock, qui est en Seine-Saint-Denis, travaille sur les musiques amplifiées, voilà, et comment elles sont reçues par les élèves. Hein. On se rend compte que des élèves qui sont allés au même concert, certains sont interviewés après, il y en a qui immédiatement rescolarisent ce qu'ils ont entendu. Ils sont capables de dire, ouais, un tel, il a l'influence d'un tel, ça s'inscrit dans tel courant. Alors, il y a une façon d'être à l'école qui est que vous apprenez à faire un tableau, par exemple, à un moment donné, enfin, pas un tableau de peinture, mais en histoire, voilà, le tableau de la France en telle année. Tout le monde comprend bien qu'il faut arriver à trouver des causes profondes, des phénomènes plus superficiels. Alors, il y a des manières qui caractérise nos curriculums actuels, qui n'étaient pas les mêmes au Moyen-Âge, qui n'étaient pas les mêmes à d'autres époques, qui ne seront pas peut-être les mêmes à d'autres époques. Voilà, je dis parfois aux États-Unis, on n'apprend plus forcément le darwinisme, donc il y a bien des modèles culturels qui s'imposent à un moment donné dans des pays. Donc voilà, il y a un registre cognitif qui fait qu'on sait qu'on est à l'école d'une certaine manière, par la manière d'apprendre et de rendre raison de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est une chose. Il y a un registre culturel, c'est-à-dire que le registre cognitif, il tournerait à vide s'il tournait pas sur des objets. Et quand on fait les programmes, par exemple, on se demande qu'est-ce qu'il faut mettre au programme, sur quels objets on travaille, le numérique ou pas, le code, la programmation ou simplement l'utilisation. Vous voyez, l'école se pose sans arrêt la question de quels objets ont droit de rentrer à l'école et quels on fait sortir, puisque bien évidemment, tout ça n'est pas extensible à l'infini. Mais il y a une troisième composante à laquelle je viens, qui est pour nous, c'est qu'il y a aussi une identité d'élève. C'est-à-dire que non seulement pour apprendre à l'école, il faut des modes de cognition, il faut des objets d'apprentissage, mais il faut aussi un certain type d'engagement de la personne. Bien avant nous, des gens comme Durkheim, comme Parsons, ont montré que quand vous deveniez élève, vous arrêtiez d'être le petit enfant, vous étiez à la maison. Vous devez d'une certaine manière changer d'identité, ne serait-ce que par exemple par le biais de la récompense. Jusque-là, on vous a donné des tas de choses parce que vous étiez le plus petit, et que les grands frères et grandes sœurs râlaient parce que vous étiez le plus petit et qu'il fallait donner, partager, donner plus, etc. À l'école, vous allez commencer à apprendre qu'on ne vous donne pas parce que vous êtes le plus petit, mais parce que vous avez travaillé, que vous êtes engagé, vous passez dans l'ère du mérite. Il faut donc se forger un personnage identitaire qui n'est plus le personnage de la socialisation première, qui est le personnage de la socialisation secondaire, pour parler comme Berger et Luckmann, qui va être de plus en plus en vigueur à l'école. Il y a un petit bémol, sur lequel évidemment insistent les sociologues, c'est que le passage de la socialisation familiale primaire à la socialisation scolaire secondaire n'est pas le même pour tous les élèves, parce que vous en avez pour lesquels la première est beaucoup plus proche de la seconde. Il y a d'ailleurs des gens, ce que montre Muriel Darmon dans son petit 128 sur la socialisation, il y a même des gens dont je parle, puisque c'est de notre tribu, les enfants d'enseignants, pour certains d'entre eux, ne voient pas le passage entre socialisation primaire et secondaire, parce que c'est l'école à la maison, et d'une certaine manière, ils sont chez eux à l'école. Voilà. Donc les conflits de loyauté, ils vont intervenir lorsque ces deux identités ne sont pas maîtrisées par des élèves qui ont du mal à passer d'un monde à l'autre. Moi, une partie de mon intérêt pour ces questions-là est venue, il y a un moment de ça, de la lecture des romans d'Annie Ernaux, Les armoires vides en particulier, dans lesquels elle relate sa propre expérience. C'est-à-dire, c'est un peu toujours le même roman qu'elle a écrit sur ce travail sur elle, hein, qui a été sa vie, puisqu'elle vient d'en sortir un. Cette déchirure qui a été la sienne d'être l'enfant de parents de milieu tout à fait modeste, qui visait pour elle une meilleure situation, ce qui est en général le cas des familles, et pour lesquelles elle devait réaliser l'injonction paradoxale, qui était « ne fais pas la même vie que nous, mais reste comme nous ». Et je crois que tout ce travail sur elle-même, c'est véritablement un conflit de loyauté, parce qu'on ne se met plus à parler comme ses parents, on se met à les trouver étriqué, étroit, besogneux, ne pas être à la hauteur des idéaux que l'école développe, etc., etc. Et ces choses-là, elles sont à la fois intellectuelles, mais elles sont indissociablement psychologiques et identitaires. Voilà, je crois pourquoi les sciences humaines ici sont intéressantes quand elles se rejoignent, et que pour beaucoup d'élèves, ne serait-ce que parce qu'on ne parle pas à la maison la langue de la famille, peuvent se demander mais quelle est la vraie langue ? Quand est-ce que je suis moi ? On a, je crois, ce type de trouble chez Priscilla, qui navigue entre les deux mondes, mais sans savoir vraiment quel est son monde et qui elle est à l'intérieur de ces mondes. Je pense que ces conflits de loyauté sont extrêmement puissants. On peut les doubler d'ailleurs d'autres conflits de loyauté dont j'ai pas parlé, qui sont les conflits de loyauté avec les pairs. En particulier au collège, le rôle des copains est devenu un rôle tellement central pour arriver à tenir le coup dans cette scolarité interminable et trouble dans laquelle on ne sait pas où on est, ni ce qu'on fait, ni comment on va en sortir, que le rôle des pairs est absolument déterminant. Et que tout ce qu'a pu mettre en évidence Dubé et d'autres sur les bouffons, les pitres, etc., etc., ou Vanessia pas sérieux, les intellos, les bouffons, etc., je vous invite à visiter ces typologies, est très éloquent sur les multi-identités que les élèves ont à gérer. Les élèves des catégories supérieures étant ceux qui sont en général les meilleurs passeurs de monde, qui sont capables d'aller jouer du violoncelle le mercredi après-midi et d'échanger sur les musiques à la mode au collège avec leurs copains. Mais ça, c'est pas, voilà, tout le monde ne résout pas ces conflits de la même manière.
Merci. Juste une petite réaction d'abord à ce qui vient d'être dit, puis après j'aurai deux petites questions. Moi je trouve qu'on a souvent tendance à catégoriser les élèves de façon un peu, je dirais moi pour moi, brutale, parce que je pense qu'il y a des élèves qui n'appartiennent pas aux catégories socio-professionnelles les plus favorisées, mais qui pour autant bénéficient d'un capital culturel qui leur permet d'être socialisés, de façon à pouvoir davantage être en phase avec ce que demande l'école. J'ai travaillé longtemps en banlieue et aussi autour de moi, j'ai certains témoignages. Je vois par exemple les enfants de militants associatifs politiques qui peuvent être dans des familles extrêmement modestes, voire extrêmement pauvres, et qui pour autant, effectivement, bénéficient d'un capital culturel, pas en termes... Je vais utiliser les grosses catégories bourgeois, hein, d'accord, mais qui pour autant vont se retrouver dans des modes de socialisation qui leur permettent de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à l'école. Je trouve que souvent on a une catégorisation un petit peu trop tranchée entre les favorisés et les non favorisés. Je voudrais bien savoir en quoi on est favorisé et en quoi on n'est pas favorisé. Mais d'abord, je voulais intervenir sur deux choses, parce que il me semble que ce que vous venez de dire et puis toute la bibliographie dont on peut disposer nous invite à des déplacements. Et il y en a deux qui me paraissent intéressants et j'aimerais vous entendre aussi là-dessus. Le déplacement entre travail à la maison et travail personnel, parce que tant que on n'aura pas fait travailler, si j'ose dire, la notion, enfin le travail personnel, je vois pas comment on pourrait résoudre le problème. Il me semble que c'était la deuxième partie, enfin dans le titre de cette formation, c'était travail devoir la maison et travail personnel. Je pense qu'on aurait intérêt à opérer ce déplacement pour nous, mais aussi pour nos apprenants. Et le deuxième déplacement qui m'intéresse et j'aimerais vous entendre, c'est le déplacement aussi sur la question de l'externalisation ou pas. Parce que externalisation, on l'entend souvent, soit travail à la maison, soit travail après la classe, à la fin de la journée, là quand ils sont complètement épuisés, qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est rentrer chez eux, alors qu'on a d'autres expériences où il peut y avoir des structures qui peuvent être mises en place en milieu de journée, par exemple, à l'intérieur même de l'établissement, avec toute une organisation d'entraide, par exemple, hein, et donc ça a à voir aussi avec la question de la forme scolaire dont on parle beaucoup maintenant. Voilà. Donc voilà. Merci.
Toi, vous avez réalisé quelque chose sur ce qui soutient le travail des élèves. Et pour reprendre la suite des propos de Marie-Alice, mais dans cette question de ce qui soutient le travail des élèves, vous dites qu'en fait, si on est attentif en tant que concepteur de situations d'aide, de dispositifs, de moments de travail, si on est attentif à cette articulation que vous faites avec les registres cognitifs, identitaires, etc., que alors on sait mieux ce qu'on fait Et vous avez l'impression, dans l'analyse que vous faites, peut-être tu pourrais la développer un poil, que parfois dans les dispositifs d'aide, on est soit dans de la remotivation, de la remobilisation, soit on est dans de l'entraînement procédural, mais peut-être parfois on ne mélange pas assez les trois registres pour être efficace. Il me semble que c'est dans le travail que vous avez mené avec Glassman et qui est disponible sur le site du centre Alain Savary, point de suspension. C'est quelque chose qui peut-être est intéressant pour dire ce que dit Marie-Alice.
Oui, alors sur le premier point, c'est le propre des typologies que d'assécher le réel. Voilà, les abstractions, comme disait Spinoza, le concept de chien n'aboie pas. Voilà, je trouve que ça s'applique exactement à ces questions-là. Donc les typologies, heureusement, aucun élève ne condense le pôle d'une typologie. Sinon, le malheureux, on le plaint. Heureusement, les gens sont autre chose que ce que la typologie permet de comprendre. Donc ça, c'est le premier point, qui est un point, je dirais, épistémologique qu'il faut avoir à l'esprit. Nous ne disons pas, je crois personne ne dit quand on fait des types, que le bourgeois protestant chez Weber, c'est évidemment un idéal type. Heureusement, ils font d'autres choses dans leur vie, sinon c'est intenable. Donc il y a cette question-là, mais après, il y en a une autre qui est finalement, on va dire, plus difficile à résoudre que la première, parce qu'on s'en sort avec une pirouette, qui consiste à dire que Il peut y avoir, mais en fait ça boucle aussi avec la première, c'est que les gens n'étant pas réductibles à leur typologie, ils peuvent aussi trouver dans leur vie des appuis qui les affranchit en partie de ce que la typologie, de ce à quoi la typologie veut les réduire. Lorsque Terrail a eu ce travail tout à fait pionnier sur les transfuges, les destins ouvriers, les transfuges, c'est-à-dire des gens qui avaient fait des études supérieures alors qu'ils étaient d'extraction ouvrière, ce qui est quand même pas la généralité des cas et qui l'est d'ailleurs plutôt moins aujourd'hui qu'à l'époque où il faisait son travail, ce qui est quand même un signe d'une évolution du système et de la société. Qu'est-ce qu'il montrait ? Il montrait, si je me souviens, il y avait deux portraits au moins. Il y avait un qui était un fils d'un militant politique et l'autre qui était un fils de militant plutôt catholique, qui était militant associatif, etc. Et ce qu'ils montraient, c'est qu'ils trouvaient dans leur foi plus laïque d'un côté et moins de l'autre, mais qui participaient sans doute des mêmes ressorts, c'est qu'ils trouvaient des éléments de légitimation pour montrer qu'ils valaient bien ce que valaient les autres et qu'ils pouvaient en faire la preuve et qu'une certaine manière, il pouvait y avoir un surinvestissement de leur part. C'est-à-dire ce que Bourdieu montrait sur les élèves sursélectionnés. Ces élèves qui, normalement, n'auraient pas dû, mais du fait qu'ils avaient été plus sélectionnés que les autres, finissaient par être meilleurs que d'autres, avec des caractéristiques sociodémographiques extrêmement défavorables. Alors, toute la littérature, Gaël-Henri Panabière, sur les méshéritiers, c'est à l'envers. Il y a aussi ce qu'elle appelle les méshéritiers, c'est-à-dire des gamins qui devraient avoir tout pour réussir, mais qui réussissent pas. Moi, je travaille sur les décrocheurs paradoxaux, c'est-à-dire des élèves qui sont fils de chirurgiens, etc., d'enseignants, hein, et qui se plantent et qui finissent par atterrir au micro-lycée pour des raisons qu'on essaie d'analyser, qui sont pas forcément les mêmes raisons que celles pour lesquelles d'autres décrochent et qui commencent à anticiper sur la réponse que je vais faire à Patrick Picard. Donc oui, bien évidemment, heureusement que les vies humaines ne sont pas bouclées, et c'est ce qui donne de l'espoir aux enseignants, parce que la possibilité, y compris de requalifier l'identité des élèves dans l'école, les humiliés, on peut supposer que ça leur permet de mieux être élèves et que même si ça ne suffit pas à faire apprendre les procédures intellectuelles, c'est quand même mieux qu'ils ne soient pas dans ces troubles identitaires profonds. Moi, je fais partie des gens qui pensent que, pour revenir à la solidarité entre pairs, les élèves, notamment au moment du collège, dépensent et gaspillent beaucoup d'énergie à se conformer aux perspectives partagées avec les pairs et à ne pas apprendre. Je pense que les élèves dépensent beaucoup d'énergie pour ne pas apprendre, ce qui est, vu d'un point de vue extérieur énergétique, tout à fait paradoxal et absurde, mais néanmoins qui trame la réalité de leur existence quotidienne dans les lieux scolaires. Pour des raisons qu'on peut démonter, vous savez comme moi que pour s'autoriser à avoir plus de la moyenne, il faut vraiment avoir un ticket de sortie de la part du groupe qui vous autorise à être bon, mais pour être bon, il faut faire de la réparation sociale, il faut être encore plus cool que les autres, il faut donner ses devoirs encore plus que les autres, il faut. Il y a vraiment un travail de passeur que certains élèves arrivent à opérer, et d'autres pas, parce que c'est pénible, il faut occuper plusieurs positions à la fois, il faut donner des gages à l'enseignant qu'on a même bonnet, mais il faut le bordéliser en même temps que les autres, sinon vous vous grillez, enfin bon, vous avez toute cette stratégie très 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 compliquée qui fait qu'il est difficile de réussir au collège. Les choses se calent. Avant, pas de problème parce qu'il y a pour l'instant encore une adhésion à l'école primaire qui est assez forte. même si elle est sans doute en voie d'érosion. Après, au lycée, le ménage est à peu près fait, en tout cas lycée général et technologique, et donc les questions sont plus des questions de culture de l'individualité que de loyauté vis-à-vis de la meute. Hein. Le collège est vraiment un conteneur, pour le coup, extrêmement explosif concernant ses rapports identitaires et le parasitage qu'il constitue par rapport à l'engagement dans les études. C'est quand même extraordinaire de voir des élèves aujourd'hui ayant une aussi faible appétence cognitive dans l'école. Tous les sondages, les uns après les autres, montrent qu'on est heureux d'aller à l'école parce qu'il y a les copains, mais ce qu'on apprend, c'est pas terrible, on s'ennuie, etc. etc. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, bien évidemment, il y a des effets contre-tendanciels dans un sens et dans l'autre qui montrent que la mécanique n'est pas scellée et que mais c'est là que notre boulot commence, je dirais. C'est bien parce qu'il y a ce jeu dans le système possible et notamment qu'on peut jouer sur ces différents registres. Et j'en viens à la question de Patrick, pour ne pas être trop long. Ce qu'on croit pouvoir montrer dans notre travail, c'est que... je prends le cas des micro-lycées, hein, sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé. Je ne sais pas si vous connaissez les micro-lycées. C'est des structures qui sont un peu dérogatoires au code de l'éducation nationale. En fait, je crois qu'il y a un article qui régit ça. Ils sont souvent intégrés dans un établissement plus large qu'eux. Et il y a une autonomie assez importante de la part de l'équipe qui se coopte, qui choisit les enseignants. Alors évidemment, il faut qu'ils soient titulaires, qu'ils aient les diplômes requis, bien évidemment. Mais ils sont cooptés avec un engagement sur un projet, etc., etc. Dans le micro-lycée que je connais, par exemple, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de CPE. Les enseignants ont intégré à l'intérieur de leur tâche d'enseignement les tâches de vie scolaire. Et donc, il y a des permanences. Voilà, c'est extrêmement organisé, extrêmement prenant et épuisant aussi. Pour les raisons que vous devinez, parce qu'un micro-lycéen qui a décidé qu'il revenait, une chose est de le décider, autre chose est de le décider chaque matin, et quand ils ont entre 21 et 24 ans, la vie est peuplée de toutes sortes d'autres choses qui ne persuadent pas de revenir dans une école dans laquelle il y a peu d'adultes, puisque ce qui caractérise notre système, on fait peu de formation continue à l'intérieur, mais je ferme encore ce chapitre qu'on pourrait ouvrir. Les micro-lycéens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent tous les registres pour eux. Hein. Alors, et là, la chose qu'ils savent très bien faire, mais je dirais parce qu'elle est assez facile à faire, quand on est bien disposé vis-à-vis des élèves, c'est qu'on arrête de les regarder comme des ratés, on arrête de les regarder comme des élèves chargés de tous les péchés du monde, on pense qu'on a le droit à l'erreur, qu'on a le droit à l'errance, qu'on a le droit d'avoir des parents qui sont morts entre-temps, qu'on a le droit d'avoir été malade, qu'on a le droit d'avoir été à un moment donné tenté par d'autres expériences et que la vie n'est pas finie à 18 ans. Voilà, c'est ce qui peut paraître banal, mais qui n'est pas forcément acquis. Je crois que voilà, je partage avec Philippe Mérieux et d'autres l'idée que si les enseignants étaient tous convaincus du postulat d'éducabilité, peut-être que cette manière de faire bouger les déterminants historiques et sociologiques serait différente. Mais bon, les choses sont ainsi. Donc, la première chose que font ces enseignants, c'est, je dirais, d'ouvrir le registre de l'identité. C'est-à-dire, on est accueillant des élèves dont on sait qu'ils ont eu des croissances et des grandissements qui sont pas les mêmes. Et c'est d'ailleurs ce que disent invariablement les dizaines et dizaines d'élèves qu'on a interviewés qui nous disent, quand on est arrivé là, on a eu des enseignants qui nous ont écoutés et ils vous dépeignent l'univers scolaire qu'ils ont connu jusque-là comme un univers industriel, mécanique, dans lequel on avait perdu leur dossier, dans lequel personne ne leur a téléphoné le jour où, etc., etc. Au micro-lycée, quand vous n'arrivez pas, on vous envoie un texto, on vous dit on a besoin de toi. Il y a des manières extrêmement élaborées qui consistent non pas à dire à la personne qu'est-ce que tu fous encore et pourquoi t'es pas là et tu vas avoir un avertissement, mais qui consistent à dire tu manques et donc t'es important. Voilà. Donc toute cette requalification symbolique, elle est extrêmement importante. Il ne suffit pas. Voilà. Et les décrocheurs paradoxaux, des gens qui ont une bonne scolarité jusque-là, mais pour des raisons XY, les parents sont remariés, ils auront une marâtre horrible, etc., 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 ça arrive dans la vie, ces élèves-là, quand ils sont reconnus pour eux-mêmes, quand ils sont plus mis en situation d'avoir à choisir le parent chez qui ils vont habiter, etc., etc., ils retrouvent leur base, parce que les savoirs acquis institutionnalisés, ça s'évapore pas comme ça, et on voit qu'ils rebouclent avec des scolarités, y compris universitaires, à peu près normales, sauf qu'ils ont juste perdu 2-3 ans, que beaucoup d'autres élèves perdent après à la fac. Hein. Donc, au bout d'un moment, les compteurs se remettent à zéro. C'est évidemment pas du même ordre pour d'autres élèves qui ont des trous, on va dire, plus anciens et plus profonds dans la scolarité, dans le cognitif et dans le culturel, parce que ce sont des effets de récurrence et de sédimentation qui les ont progressivement éloignés de la norme scolaire et qui font que c'est difficile à rattraper. Or, je dirais que traditionnellement, nous sommes plus enclins à être dans la réparation symbolique, à être dans la bienveillance, pour emprunter la notion qui circule aujourd'hui, que dans l'idée que la bienveillance est un des éléments, mais qui ne suffit absolument pas à restaurer les acquis qui sont absolument indispensables dans des procédés curriculaires qui fonctionnent sur le mode de l'accumulation et de la progression. Voilà, il y a des étapes. Si vous les avez loupées, ben, il faut y revenir. Hein. À un moment donné, on ne voit pas comment on pourrait magiquement s'y mettre. Il y a des élèves qui pratiquent cette causalité magique, qui pensent que parce qu'ils sont revenus élèves, alors ils vont faire tout bien comme il faut et qu'ils vont réussir. Et ce qui est terrible pour eux, c'est qu'à part avoir été étayé psychologiquement, je dirais, s'ils se rendent compte que ça marche pas, la mésestime de soi peut être pire à la sortie qu'elle n'était à l'entrée. Et là, je crois que dans l'idée qu'on défend, que qu'est-ce qui soutient les élèves et non pas quels sont les dispositifs de soutien, hein, on a voulu insister là-dessus, c'est l'idée qu'on peut pas faire l'économie pour chaque élève, d'une certaine manière, de quel bilan de registre on peut faire pour lui, c'est-à-dire qu'est-ce qui pêche le plus. Et ça, à mon avis, c'est de l'ordre du diagnostic collectif, sur la durée, régulier, dans lequel on peut voir. Je prends un dernier exemple. Au micro-lycée, il y a beaucoup d'ateliers. Il y a une ouverture culturelle qui est extrêmement importante. Et des ateliers, on ne se moque pas des élèves. On leur fait venir des romanciers, on fait venir des gens qui sont des pointures, comme on dit, voilà. Et les élèves sont émerveillés, ils disent « Mais vous savez, on a vu un tel, et c'est extraordinaire, il vient nous voir, on compte, on est important. » Et d'ailleurs, les gens qui viennent de l'extérieur disent régulièrement, il y a des nuées de journalistes qui passent et qui viennent, qui d'ailleurs biaisent un peu l'expérience du micro-lycée, mais bon, et qui disent, mais ne nous dites pas que ces élèves sont en échec. Ils discutent avec nous avec un aplomb, avec un sens de la répartie et un bagage langagier qui fait qu'ils ne peuvent pas être en échec scolaire. Ben si, ils l'ont été, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas des transferts. Hein, le fait d'être à l'aise dans l'interaction ne vous dit pas comment on fait une dissertation, comment on le doit faire au baccalauréat et que la difficulté est là. Donc voilà, étayer tous les registres à la fois, c'est une complexité, mais je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de ce bilan qui, par-delà la bienveillance et l'ouverture à des jeunes malmenés par la vie, ne suffit pas. C'est déjà bien qu'on les considère. D'ailleurs, nous voilà, on dit plutôt que bienveillance, on préfère parler de considération. Parce que la considération, elle n'est pas à sens unique. Elle part de ce dont la personne est porteuse aussi et qu'on doit prendre en considération. Je trouve que c'est, bon, là, on peut dire que c'est des querelles de vocabulaire, mais ça me paraît supérieur à l'idée de bienveillance, qui est une idée un peu dégoulinante de bonne volonté adulte. Je ne sais pas si je réponds à vos questions ou si je réponds trop. Oui.
C'est pas une question, c'est plutôt un complément. On parlait tout à l'heure du conflit de loyauté. On a parlé des familles, on a parlé des pères. Vous avez rajouté les pères. Et nous, sur notre territoire, moi je suis dans les Yvelines à Trappes, on voit émerger le problème du religieux. Et là, on en vient à des tâches qui deviennent difficiles, voire impossibles, au niveau de l'enseignement. Alors, c'est un petit peu prégnant sur les collèges. Oui. Ça descend sur le premier degré.
Oui, oui. Non, je crois que vous avez tout à fait raison. J'ai rajouté les pères, mais il faut rajouter cette couche au millefeuille, hein, et notamment pour les endroits comme Trappes, auxquels vous faites allusion. L'idée naïve selon laquelle il faudrait plus d'apports cognitifs et culturels en termes de laïcité est une idée qui se heurte à des réflexes identitaires de jeunes qui disent « Mais moi, je suis pas Charlie. Voilà, je suis pas Charlie. Je suis pas dans l'école qui veut que je sois Charlie. » S'il y avait une occasion de montrer que ce registre identitaire est prégnant, je crois que c'en est une merveilleuse et épouvantable, d'une certaine façon, parce qu'on aboutit au contraire de ce qu'on cherche en faisant, c'est mon point de vue, on peut ne pas le partager, preuve d'une laïcité très, très intransigeante qui ne prend pas en compte le registre identitaire qui est forcément fondateur de ça aussi. Et malheureusement, les conflits identitaires compliqués entre culture scolaire et culture familiale risquent de trouver une issue extrêmement aisée pour ces élèves à qui on va rendre une identité clé en main dans laquelle ils vont sauver le monde, se sauver eux-mêmes, sauver la planète, sauver la religion et mourir peut-être d'une belle mort un jour où ils auront tout réuni à la fois. Alors bon, évidemment, ils auront sauvé leur identité, mais quel échec de l'école d'une certaine façon si elle contribue à sa manière à ce genre de fuite. Je crois que là, vous avez raison, j'ai pas pensé à ça, mais vous mettez le doigt sur, à mon avis, une responsabilité nouvelle. Pardon ? Oui, c'est nouveau, mais c'était préparé depuis longtemps, d'une certaine façon, parce qu'à force de méconnaître les cultures familiales et de les disqualifier comme culture aussi, je renvoie aux travaux en particulier de Christophe Delay, hein, les classes populaires à l'école, hein, ça peut être dans une école suisse, ça en dit très long sur la manière dont les enseignants ont tendance, hein, parce qu'il faut évidemment pas généraliser, et pas toujours, à regarder les univers populaires comme loin de l'école, ne venant pas quand on a besoin d'eux, etc., mais sans s'enquérir des raisons pour lesquelles ils y viennent pas volontiers, voilà, qui est dans une méconnaissance assez grande de type d'identité et de culture. Quand on a au moins lu Lévi-Strauss, on sait que toutes les sociétés ont des cultures. Après, elles sont pas les mêmes. Si on les passe au tamis des exigences cognitives scolaires, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais c'est pas le seul tamis. Voilà. Et comment on fait en sorte que des élèves y arrivent, c'est quand même notre boulot.
Je vais pas faire d'insiste sur la question de la discrimination. Si ça vous intéresse, on a fait un stage sur la discrimination et la laïcité il y a quelques semaines, dont on publie petit à petit le compte-rendu. Simplement, moi, je m'inquiète de l'heure qui tourne. Ce que je vous propose, enfin, juste quand même pour terminer sur les présentations de Patrick et puis le travail de tous les chercheurs de son équipe, il me semble que non seulement ça nous fournit un certain nombre de catégories intellectuelles pour penser les problèmes, mais ça nous fournit aussi des matériaux pour la formation. Et dans les différents livres dont on a parlé, celui de Patrick, celui de Séverine Cacpo, etc., on a un certain nombre de verbatim, de descriptions de situations de classe ou de devoirs à la maison encadrés par les parents, qui me semblent être aussi des supports de formation qu'on peut utiliser en tant que tel. Voilà. On parlait de la manière de ramener le réel. Certes, la vidéo c'en est une, mais les corpus présentés dans les travaux de recherche sont aussi une manière de ramener le réel dans la formation. Voilà, et donc je voulais donc remercier Patrick pour son intervention.